Bonsoir, premier lundi du mois, 19h30, l'émission du syndicat de l'industrie informatique, syndicat membre de la CNT Solidarité Ouvrière. Donc, nous sommes des travailleurs de l'industrie informatique. On va vous donner l'adresse de notre site internet, c'est syndicat-informatique.fr. Ce soir, on va parler de l'open source et si vous avez des commentaires ou des questions à poser, vous pouvez nous contacter au 01 43 71 89 40. Donc ce soir, derrière les micros, Clément, Bernard, Colin qui sera aussi derrière le micro et en même temps qui fera la technique.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Donc ce soir, on va parler un peu de l'open source. Bon, c'est un sujet qui est assez intéressant, mais que beaucoup de gens ne connaissent pas trop. On va d'abord essayer de définir un peu ce que c'est que l'open source, ce que c'est que le logiciel libre, parce que ce sont des concepts qui sont légèrement différents et tout le monde ne met pas la même chose derrière. Et puis après, on verra pourquoi ça nous intéresse, nous, en tant que syndicat anarcho-syndicaliste. Quelles sont les implications philosophiques du logiciel libre. Et puis après, on verra un peu plus dans la technique, quelles sont les solutions éventuelles qu'on peut trouver quand on fait de l'informatique, quand on a besoin de choses comme ça. Donc, open source et logiciel libre. Alors, il y a deux personnages... mythique dans ce domaine-là, c'est Éric Raymond qui a écrit le fameux article « La cathédrale et le bazar », qui est un peu la genèse de, les fondements théoriques de l'open source, et Stallman, Richard Stallman, qui lui est plutôt du côté logiciel libre. Alors je vais laisser Clément rentrer un peu dans ce que c'est que la différence entre l'open source et le logiciel libre.
Non, vas-y Bernard, je pense que t'as les idées plus claires que moi.
Alors, en gros, l'open source, la cathédrale et le bazar, là, ça c'est plus une question d'organisation. C'est-à-dire que Éric Raymond avait vu deux méthodes différentes de produire du logiciel. Donc le logiciel, c'est ce qui fait tourner les ordinateurs.
Donc, par exemple, Windows ou Word, c'est un logiciel.
Voilà. Ouais, Windows, c'est un operating system, c'est un logiciel particulier. Word, c'est un autre logiciel. Et puis, Facebook, c'est... Enfin, l'appli Facebook sur votre smartphone, c'est aussi un logiciel.
Mais tout ça, c'est pas du tout du logiciel libre, par contre. Hein.
Voilà.
Ni
voilà,
open source, d'ailleurs.
Non, mais je prends des exemples que tout le monde connaît.
Un exemple de logiciel libre connu, c'est VLC. De l'extérieur, enfin, on fait pas la différence quand on connaît pas entre du logiciel libre et du propriétaire.
VLC, c'est un lecteur de vidéo, c'est ça.
Oui, ouais. C'est ça. Ouais.
Donc, open source et logiciel libre. Donc, la cathédrale et le bazar, c'est l'open source. C'est en fait la manière de travailler. Donc, c'est plus quelque chose pour les informaticiens professionnels. C'est l'organisation du travail. La cathédrale, c'est l'organisation classique avec un grand chef. Et puis, on fait comme au temps des cathédrales. Donc, il y a le grand architecte qui fait travailler les maîtres, qui font travailler les compagnons, qui font travailler les apprentis. Et le bazar, c'est plus, on va dire, tout le pourtour de la Méditerranée où il y a un tas de fourmis qui travaillent dans tous les sens. Ça paraît pas synchronisé, mais en fait, ça l'est. Et on arrive à faire des choses qui marchent très très bien, rapidement, efficacement. Et puis, voilà, donc c'est deux conceptions différentes de la manière de travailler en informatique.
Par exemple, chez Microsoft, Windows, ça a été développé, en tout cas, jusque, je pense, avant Windows 7, ça a été développé selon la méthode cathédrale. Donc, une architecture vraiment... guidé depuis le haut, quoi. C'est-à-dire avec quelques chefs qui décident, et ensuite les décisions se diffusent vers tous les développeurs.
Tandis que dans le modèle du bazar, bah, s'il y a un artisan qui dans le coin a une bonne idée, tout le monde va se l'approprier dans la mesure du possible, et ça va percoler, on va dire, horizontalement, latéralement dans le projet. Donc ça, c'est Éric Raymond, La cathédrale et le bazar. C'est un article très intéressant à lire, mais c'est très technique, et puis c'est surtout, je veux dire, plus organisationnel que technique.
Ça date de quelle année?
Alors, La cathédrale et le bazar, je crois que c'est paru en 1999.
D'accord.
Voilà. C'est pas tout neuf, mais ça existait déjà à l'époque. Okay. Et l'article commence en rappelant qu'il venait de découvrir Linux, qui existait déjà. Oui. Et lui était dans ce domaine-là depuis les années 80, disons, on va dire fin des années 80, quoi.
D'accord, parce que l'autre personnage que tu cites, Richard Stallman, lui a commencé à se développer sa philosophie bien avant,
oui.
Début des années 80. Ouais.
Donc c'est oui, on est dans une époque où il y a eu pas mal d'ébullitions. Il y a eu Unix, il y a eu le langage C, il y a eu tout un tas de choses de manière de penser, de concevoir différemment. On va dire, oui, en gros, ça commence au début des années 80.
Ouais.
Et ça va jusqu'à la fin, on va dire fin des années 90, les grands principes philosophiques ou techniques étaient posés. Donc ça, c'est l'open source. Excusez-moi. Après, on a le logiciel libre. Alors là, nos amis anglais ont un petit problème. C'est que chez eux, chez nous, quand on dit logiciel libre, quand on dit libre, quand on utilise le mot libre, ça veut dire libre au sens philosophique, sauf dans un cas, c'est entrée libre. Où là, ça veut dire qu'on ne paye pas. Nos amis anglophones n'ont qu'un seul mot qui est free. Et donc, free software, comme disait Richard Stallman, est-ce que c'est free beer or free speech? Donc, est-ce que c'est la bière gratuite, free beer, ou est-ce que c'est la liberté de parler, free speech? Et en fait, le logiciel libre, libre, il faut le prendre au sens libre, non seulement de droit à payer, et c'est pas toujours vrai, on peut faire du logiciel libre en encaissant des droits, mais c'est surtout que c'est un logiciel qui est libre d'utilisation, qu'on peut modifier, qu'on peut améliorer. Il y a des petites règles, donc ça veut dire que si on fait des modifications, on les remet dans le pot, on les met à disposition de tout le monde. Et surtout, derrière, il y a une idée philosophique qui dit que le logiciel fait partie de notre vie, mais il ne faudrait pas que ça régisse notre vie. Donc le logiciel, il doit être libre, il doit être transparent, d'un point de vue politique au sens noble du terme. Le logiciel qui est dans les machines à voter, on doit pouvoir accéder à ses sources pour vérifier qu'il n'y a pas une magouille derrière.
Les sources d'un logiciel, c'est prendre une métaphore de cuisine, c'est la recette.
Voilà.
C'est comment est fait le logiciel, ses plans, ses mesures, de manière à pouvoir le reconstruire soi-même chez soi. C'est comme si votre machine à laver, elle venait avec un plan très détaillé pour la reconstruire à l'identique. C'est ça les sources en termes, voilà, de logiciels.
Et donc la notion de logiciel libre inclut le fait que ça doit être transparent. On doit pouvoir utiliser un logiciel sans se demander s'il n'est pas en train de signaler à la NSA qu'on vient de se connecter avec un mot de passe quelque part.
Et ça, c'est une... Comment dire, les gens qui font de la sécurité aussi ont beaucoup travaillé sur cet aspect. Il y a deux types de sécurité. Il y a la sécurité par l'obfuscation, c'est-à-dire c'est sécurisé parce que personne ne comprend comment ça marche. Et c'est sécurisé... Et la sécurité par la transparence, c'est-à-dire que tout le monde sait comment ça marche, mais pourtant ça va être sécurisé. Et en termes de, par exemple, de cryptographie, donc tout ce qui est chiffrement des données pour qu'elles ne soient pas lisibles par un tiers, il y a ces deux approches qu'on retrouve dans le monde, quoi. La cryptographie ouverte, tout ce qui va être publié par des chercheurs du monde académique, par exemple, et la cryptographie fermée, qui est plutôt celle qui va être faite par les militaires. Même si les militaires se mettent aussi à la cryptographie ouverte.
Alors, j'ai un article qui a été écrit par une société qui est spécialisée dans le logiciel open source, mais ils disent, disons ici plutôt, le logiciel libre porte un message particulièrement d'actualité. Le logiciel nous contrôle, il est vital pour nous de contrôler le logiciel. Des pans de plus en plus grands de notre vie sont sous la maîtrise des logiciels. Un logiciel détermine si votre voiture va freiner, un autre si votre pacemaker va faire battre votre cœur, et un autre peut-être déterminera pour qui vous avez voulu voter au présidentiel. Le logiciel fait désormais plus que de nous rendre service, il nous contrôle. Ce n'est pas un mal en soi, à condition seulement que nous le contrôlions aussi, que nous sachions ce qu'il fait exactement et ayons le droit de le modifier si besoin. Cette exigence première du logiciel libre est plus que jamais essentielle. C'est une société capitaliste qui a écrit ça. Donc ça explique pourquoi nous, en tant que syndicat anarcho-syndicaliste, on est intéressés. Il y a le côté liberté, il y a le côté de ne pas engraisser les actionnaires parce que le logiciel coûte moins cher, et surtout il y a le côté qu'on sait ce que le logiciel fait, on n'est pas espionné, disons la collectivité contrôle ce que fait le logiciel. Alors, donc on a fait un petit tour sur ce que c'est que le logiciel libre et l'open source. Alors, il y a des choses plus ou moins parallèles dans ce qu'on appelle le open innovation ou le open art ou le open hardware. Alors, le open hardware, il y a eu des exemples, c'est du des gens qui ont conçu des processeurs ou du matériel informatique spécialisé dans la même philosophie que le logiciel libre. Donc avec transparence et puis diminution des coûts. La diminution des coûts, on verra plus tard comment ça peut apparaître. Il y a l'open art aussi, où justement il y a des gens qui mettent leur art à disposition d'autres dans des conditions différentes, avec une approche différente de l'économie.
Mais dans tous ces domaines, là, tu veux dire que c'est aussi... mettent à disposition la manière de recréer ces choses. C'est-à-dire que le open hardware, c'est... On te donne un processeur, mais on te donne aussi comment le processeur est fait et comment tu pourrais le refondre chez toi si t'en avais les moyens techniques.
Exactement. Bon, là, ce sont des processeurs un peu spécialisés. Donc, on va dire ils partent d'un ce qu'on appelle un FPGA. Hein, et puis, disons, l'intéressant, c'est le FPGA. En gros, c'est plein de transistors. Et puis, quelque part, on indique comment on connecte tous les transistors pour faire des fonctions. Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent à disposition le plan, la manière de connecter tous les transistors. Donc il y a tout un travail intellectuel qui est mis à disposition de la collectivité.
D'accord. Et d'ailleurs, le open hardware, en fait, on le retrouve pas que en informatique, on le retrouve aussi au niveau des imprimantes 3D. Par exemple, sur Internet, on peut facilement télécharger les plans, les modifier, etc. Des imprimantes 3D, mais pas que des imprimantes 3D, mais tout un tas de choses qui sont matériels, etc., qui sont en fait open source.
Et pour info, une imprimante 3D, c'est une imprimante qui permet d'imprimer des objets en plastique.
Ah. Alors, je vais même améliorer ça un petit peu. J'ai un collègue qui est en train d'acheter une imprimante qui imprime des objets en titane.
D'accord.
Voilà.
Okay. Avec de la poudre.
Avec de la poudre. Et ça a un énorme intérêt parce qu'entre autres, il travaille sur des boulons d'aviation avec des formes, c'est, comme diraient nos amis belges, c'est creux à l'intérieur dedans.
Je suis pas belge alors.
Et donc c'est l'intérieur des boulons est presque en nid d'abeille. Ce sont des choses qui sont totalement impossibles à faire avec les technologies traditionnelles. Et ça fait un boulon qui, pratiquement pour les caractéristiques mécaniques presque équivalentes, pèse presque deux fois moins lourd.
D'accord.
Mais est-ce qu'on peut nous-mêmes construire cette machine si on a les plans? C'est la question.
La construire, non, je suis pas certain.
Ouais,
parce qu'il y a une technologie quand même un peu spéciale sur la gestion de la poudre.
Ouais, mais l'idée des imprimantes 3D à base de plastique, c'est que tu puisses les fabriquer toi-même facilement. Ouais. Mais là, ça a des capacités. Bon, tu fais des objets en plastique, donc après ils ont des propriétés mécaniques qui sont celles du plastique.
Hein, mais théoriquement, si tu maîtrises les technologies avec les poudres, tu dois être capable de mettre autre chose que du plastique dedans.
Ouais.
Donc pour l'instant, on a parlé de logiciels libres, j'ai parlé tout à l'heure d'entrée libre, de FreeBIR. La question c'est ok, mais qui finance tout ça? Parce que, comme on dit, hein, si c'est gratuit, c'est que le client c'est vous. Donc en fait, quel est le modèle économique qui permet de faire travailler, qui permet de produire du logiciel libre? Est-ce qu'il y a quelque part des gens qui font travailler un tas d'amateurs et puis qui en profitent pour se... Enfin, quand je parle d'amateurs, c'est au sens noble du terme, hein, les aficionados, quoi. Pas...
Des bénévoles, plutôt.
Voilà, on va dire des bénévoles. Donc ils font ça en dehors de leur métier, en dehors de leur sort de travail, parce qu'ils aiment ça, d'où le terme amateur. Mais et puis à côté de ça, il y a quelques personnes qui en profitent. Alors en fait, il y a un certain nombre de gens qui font ça, qui sont payés par des entreprises pour faire ça. IBM paye des gens qui travaillent pour de l'open source ou du logiciel libre. Donc IBM finance, IBM et beaucoup d'autres sociétés financent des gens pour des produits qu'elle ne vendra pas. Pour qu'ils travaillent pour des produits qu'elle ne vendra pas. Et d'une certaine manière, ça ramène quand même un bénéfice à IBM, parce qu'elle récupère des logiciels d'une qualité nettement supérieure à ce qu'elle pourrait récupérer autrement. Pourquoi ? Parce que quand on met 25 fous furieux d'informatique sur un projet, il n'y a plus un bug qui passe, quoi. Il y a une qualité de travail, une qualité de motivation différente.
Mais ça, tu pourrais l'avoir avec 25 développeurs qui travaillent sur du code propriétaire.
Oui, mais généralement, ils ne sont pas motivés de la même manière.
Ok, la différence, tu veux dire, c'est que comme le code est... Donc le code, c'est la recette, c'est la source, et à la disposition de tout le monde, s'ils font des erreurs, ça va se voir, quoi.
Ça va se voir, donc quelque part, et puis en plus, généralement, on met son nom dedans, c'est le petit truc psychologique. Mais quand je parlais des gens d'IBM, IBM paye des développeurs... IBM et d'autres sociétés payent des développeurs pour du software libre, elle les paye au même prix qu'elle paierait les gens qui travaillent pour du logiciel fermé.
Ah ouais, mais c'est aussi qu'ils vendent des produits qui se rajoutent sur ce logiciel voilà. libre. Et donc, développer ce logiciel libre, je pense par exemple à Eclipse, c'est une manière de vendre des extensions de ce logiciel d'Eclipse qu'IBM fournit. Quoi. Donc, voilà. plus la diffusion d'Eclipse est grande, plus les clients seront enclins à utiliser les extensions de ce logiciel fournies par IBM.
Donc, justement, là, on disait, bon, donc il y a des sociétés qui payent des gens pour travailler sur ces projets-là. Et puis, comme on est quand même dans un monde capitaliste, j'entends le lecteur de Landerneau, l'auditeur de Landerneau, qui dit quel est le modèle économique. Alors, le modèle économique classique en open source, c'est la société qui va financer partie ou être partie prenante, on va dire, dans le financement de projets. Ces projets-là vont suivre les règles du logiciel libre, c'est-à-dire que quand la société amène une amélioration à la structure du programme ou au fonctionnement du programme, elle met ça au pot commun. C'est-à-dire qu'elle ne garde pas pour elle les améliorations qu'elle apporte, elle les remet au pot commun. Et elle va assurer la promotion de ce produit-là. Et là où elle va faire du business, c'est qu'elle va proposer du service autour de ça. Alors qu'est-ce que c'est le service ? Ben, c'est comme quand vous achetez une voiture, de temps en temps, il faut passer chez le mécano. Faut faire des modifications, faut faire des révisions, faut faire un tas de choses. Donc dans le logiciel informatique, c'est pareil. Régulièrement, il y a des mises à jour, il y a des améliorations, il y a des modifications. Alors dans le cas du logiciel propriétaire, on n'achète pas le logiciel, on le loue à l'année, parce qu'en général, on n'achète pas son logiciel quand on est client de certaines sociétés.
C'est le cas par exemple pour les antivirus qui se...
Les antivirus qui se louent à l'année, les bases de données Oracle par exemple, ou, etc. Il y a un tas de... Ou ce qu'essaye de faire Microsoft avec sa nouvelle version de Office, je crois la dernière
mouture. Tu payes à l'année.
Voilà, où on paye à l'année, c'est D'accord. un abonnement. Et en plus, non seulement on n'est pas propriétaire, mais en plus on paye pour la version 5. Si on veut la version 6, il faut payer un petit quelque chose en plus. Donc on paye le droit d'utiliser le logiciel et en plus on va payer le droit de se faire entretenir le logiciel et d'avoir les dernières modifications en cours de route. Et donc ce que font la plupart de ces sociétés-là qui travaillent dans le logiciel libre ou dans l'open source, ils disent « Ok, nous on met tout à disposition et on va se payer uniquement sur la maintenance, sur l'entretien. » C'est-à-dire que si vous avez un problème, vous prenez le contrat à 200 euros par mois et si vous avez un problème, on vous garantit qu'on trouve une solution à votre problème dans les 24 heures.
Ouais, y a ça, il y a aussi que souvent tu veux... une spécificité sur le logiciel. Tu vas vouloir avoir, toi, une extension particulière ou une utilisation spéciale qui, dans ce cas, va être fournie par cette société éditrice de logiciels libres. Elle va te faire ta petite extension que tu utilises dans ton entreprise.
Alors, dans ce cas particulier, en plus, les sociétés qui jouent vraiment le jeu, là, il y a eu un moment, je travaillais dans une société, on avait un besoin d'un logiciel particulier. J'avais trouvé le truc qui allait très bien en open source, sauf que j'utilisais une version, pour être précis, j'utilisais un IBM AIX, hein, et le logiciel n'avait pas été implémenté sur cette machine-là. Il n'y avait pas eu les petites adaptations spécifiques à cette machine-là. Et ce que nous a proposé l'éditeur qui s'occupait de ça, donc open source, il a dit voilà, on estime que ça coûte tant à faire, vous en payez un tiers, nous on s'occupe du reste, par contre... vous avez payé pour lancer le truc, mais ça retourne dans le pot commun. C'est-à-dire que vous payez un tiers des frais, et après, nous, on va pouvoir être capable de proposer à tout le monde l'extension. Et vu le prix que ça coûtait, mon employeur a dit « Ok, on y va ». D'accord. Donc, on a des mécanismes différents, parce qu'on n'a pas derrière nécessairement les mêmes actionnaires Rapia. Il y a une philosophie légèrement différente sur ce qu'on appelle le modèle économique. Donc on va, oui parce que là je souffle un petit peu, on va vous passer une petite musique. Donc je rappelle, c'est le syndicat de l'industrie informatique, affilié à la CNT Solidarité Ouvrière, syndicat-informatique.fr. Et vous pouvez nous contacter au 01 43 71 89 40. Je répète, 01 43 71 89 40. À tout à l'heure.
Que tu parcours à pas court ou à grande foulée. Ce que tu défoules à travers la foule qui te fouille et te chatouille. Le chemin que tu traces, qui si souvent te dépasse, qui t'excite ou t'agace, les tours de passe passent au fond des impasses. Rien n'est à toi, c'est juste l'histoire du monde. Rien n'est à toi, chacun sa petite seconde. Tous ces mots qu'il aura fallu soigner, tous ces idéaux desquels s'éloigner, toutes les têtes qu'il aura fallu briser, tous les cœurs qu'il aura fallu piétiner. Oh oh, tous ces jours à croire pour cent, tous ces jours à pleurer tout seul, toutes ces rencontres à contre-vent, tous ces œils pour œil, et rentre dedans, rentre dedans, rentre dedans, rentre dedans pour dents. Rien n'est à toi, c'est juste l'histoire du monde. Rien n'est à toi, chacun sa petite salade. Ces murmures d'armure faisant voler les murs, toutes ces forces en face à face, tous ces fous qui font des grimaces. Oh, oh, tu t'en fous, tu laisses ta place. Ta seule richesse, c'est ton sentiment qui te pousse vers l'avant. Rentre dedans, rentre dedans, rentre dedans, rentre dedans pour dedans. Rien n'est à toi, c'est juste l'histoire du monde. Rien n'est à toi, chacun sa petite seconde. Oh, à toi, c'est juste l'histoire du monde. Rien n'est à toi, chacun sa petite
Alors, vous venez d'écouter Mano Solo, Rien n'est à toi.
Allez. Donc ce soir, c'est la suite de l'émission du syndicat de l'industrie informatique de la CNTSO. Ce soir, on parle du logiciel libre, c'est-à-dire du logiciel dont le code source est à disposition du public, c'est-à-dire sa recette pour le construire est à disposition de n'importe qui. Et juste avant la pause, Bernard nous a parlé de ces entreprises qui font du business avec du logiciel libre, donc en vendant du service par-dessus des logiciels. Et maintenant, on va parler un peu de la dimension légale qui permet que le logiciel libre ne soit pas utilisé par des éditeurs de logiciels propriétaires. Parce que le logiciel libre est librement réutilisable. Mais comment on s'assure que des entreprises privées, qui elles, des éditeurs de logiciels propriétaires, qui elles ne diffusent pas leur code source, n'utilisent pas de logiciels libres? Et ça, c'est fait par le truchement des licences d'exploitation.
C'est pas tellement qu'elles ne l'utilisent pas, elles peuvent l'utiliser. Ce qu'on veut pas, c'est qu'elles se l'approprient.
C'est ça. Ouais. D'ailleurs, je te donnerai l'exemple de mon entreprise où on utilise le logiciel libre, mais on fait du code propriétaire. Et dans le logiciel libre, il y a deux grandes licences qui sont la GPL et la LGPL. Alors la GPL, c'est la GNU Public License, donc la licence publique GNU. Le GNU, c'est un des emblèmes du logiciel libre. Et cette licence, elle contraint les gens qui utilisent des logiciels en GPL à mettre eux-mêmes leur logiciel aussi en GPL, c'est-à-dire que s'ils utilisent du code qui est libre d'accès, qui est public, le code que eux produisent eux-mêmes, ils doivent également le rendre public. Et c'est une licence qui est dite contaminante parce que ça veut dire que dès le moment où vous voulez mettre le doigt dans l'engrenage du logiciel libre, vous voulez utiliser toutes les fonctionnalités qui sont publiques, qui sont forcément appétissantes, vous allez vous vous aussi être obligé de mettre votre code sous la même licence, c'est-à-dire qu'il doit être à disposition du public. Ça, c'est un cas d'utilisation, je dirais, c'est pas le plus contraignant, mais c'est déjà assez contraignant vu que c'est contaminant. La deuxième licence qui est moins dure à exploiter, c'est la LGPL. Donc c'est la GPL, pour traduire en français littéralement, qui est moins contraignante. C'est que vous pouvez utiliser du code libre dans votre application. Alors vous n'avez pas l'obligation de diffuser les modifications que vous faites à ce code. C'est-à-dire si vous l'utilisez sans le modifier, c'est juste un outil externe sur lequel vous vous branchez, vous n'avez pas besoin de diffuser vos modifications. Et par exemple, dans la société dans laquelle je travaille, donc on fait de la sécurité, un domaine où le logiciel libre n'est pas trop mis en avant, on utilise, nous, en interne, des librairies qui sont LGPL, c'est-à-dire on se branche sur des logiciels libres qu'on ne modifie pas, et de cette manière, on n'a pas à diffuser notre code à nous, ce qu'on produit n'a pas à être diffusé de publiquement. Et ces licences ont été pensées, ça a été pensé par Richard Stallman au début des années 80, il y a eu plusieurs versions, et donc maintenant il y a beaucoup de code qui est sous ces licences. Je pense par exemple à Firefox ou à VLC, qui sont des logiciels libres bien connu, dont le code va être soit en GPL, soit en LGPL. C'est-à-dire que vous pouvez l'inspecter à votre guise.
Donc, attends, si ça veut dire que, en fait, si moi, vu que Firefox est sous licence GPL, ça veut dire que si je veux, je suis un codeur fou, et que je veux modifier mon Firefox parce que j'ai besoin de telle fonctionnalité, etc., donc je vais modifier ce Firefox-là, et je veux redistribuer ce Firefox, donc c'est mon Firefox à moi, que vous pouvez télécharger sur mon site. Ça veut dire que vu qu'il est sous licence GPL et que la licence est comme on dit...
Contaminante,
ça veut dire que mon code est aussi sous GPL et je dois absolument redistribuer avec le logiciel le code source pour que les autres personnes puissent réutiliser mes modifications, les modifier, etc.
C'est ça, ouais. C'est-à-dire que toi, tu as profité du travail fait par les autres, donc les autres doivent profiter de ton travail. C'est inscrit dans la licence, et si tu la respectes pas, libre à toi, mais on pourrait t'intenter un procès que tu risques sûrement de perdre.
Faut pas perdre de vue que les licences en question ne sont pas des abandons des droits d'auteur. Les droits d'auteur sont maintenus. De toute manière, sauf erreur de ma part, le droit ne permet pas l'abandon des droits d'auteur. On peut les concéder, mais le droit d'auteur reste. Et ce que font ces licences-là, c'est qu'elles assurent que le travail de quelqu'un ne peut pas être repris, approprié légalement dans des conditions qui ne lui plairaient pas. Mais, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la philosophie anarchiste, etc., n'est pas contre le droit d'auteur. Loin de là, on respecte le travail des gens, on respecte le... Comme j'ai dit, philosophie anarchiste, c'est assez intéressant de voir quand même que ce sont des concepts qui sont nés aux États-Unis et qui sont très libertaires dans leur mode de pensée et leur mode de mise en place.
Tu veux dire presque libertarien.
Voilà, oui.
Moi, je rajouterais une troisième licence, donc la GPL, la GPL, la LGPL, et je rajouterais la licence BSD. Qui, s'écrit en quelques lignes et dit, en fait, tenez, prenez ce code source et faites ce que vous voulez avec. Et ça veut dire que si vous voulez faire un logiciel propriétaire avec ce code source, vous pouvez. Ou si vous voulez le redistribuer, vous pouvez aussi. Il y a vraiment là les trois façades de ce qu'on peut faire ce qu'on veut, quoi.
Alors j'ai apporté un petit bémol quand même, parce que là, sur la notion de « on peut faire ce qu'on veut », etc., je vais prendre l'exemple. Vous savez qu'actuellement sur le marché, il y a ce qu'on appelle les smartphones et les tablettes, et puis il y a deux sociétés qui ont... Il y en a une dont le nom commence par A et l'autre dont le nom commence par G, qui ont développé des logiciels pour faire fonctionner ces smartphones et ces tablettes, enfin ces smartphones, ces téléphones intelligents et ces tablettes. Et il y en a une qui dit que ces logiciels sont de l'open source, donc c'est celle dont le nom commence par G, parce qu'on peut les voir. Et effectivement, vous pouvez avoir accès aux sources. Si vous avez les outils qui vont bien, vous pouvez vérifier que c'est bien le résultat de ce qu'on appelle la compilation de ces sources qui est sur votre tablette ou sur votre téléphone intelligent. Mais de là à dire que vous allez pouvoir modifier les sources et les installer sur votre tablette ou sur votre téléphone intelligent, c'est une autre paire de manches. Donc là, on a un côté intéressant de la notion de logiciel libre, open source. On a accès aux sources, on est sûr que quand on utilise ces téléphones intelligents ou ces tablettes, ils sont pas en train d'appeler discrètement par derrière la NSA pour dire ça y est, il est en train de téléphoner à ses copains, il y a une réunion de cellules ce soir, parce que on a accès aux sources, on voit ce qui se passe et on peut vérifier que c'est bien ce qu'on a sur l'appareil.
Dans les faits, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on n'a aucun moyen de vérifier justement ce qu'il y a sur cet appareil. On a les sources d'un côté, on a le logiciel de l'autre côté, mais faire la liaison, c'est pas évident. Des fois, tu peux le faire, mais des fois, la plupart du temps, tu peux pas le faire, justement.
C'est bien ce que je disais, si on est bien équipé, qu'on a le bon compilo, qu'on peut comparer les binaires, quoi.
Et donc, tu parlais bien sûr de Android, de Google, et cet Android est sous une licence qu'on pourrait dire comme qui est à peu près équivalente à la LGPL. On va dire, mais c'est pas la LGPL qui est dedans, mais enfin, il y a des logiciels LGPL dedans, mais c'est pas la licence du logiciel. Mais ce logiciel est distribué donc par Google, et tous les constructeurs de téléphones, de tablettes, etc., peuvent le récupérer et l'inclure dans leurs produits, donc l'inclure dans leurs tablettes, dans leurs téléphones, etc., et faire leurs propres modifications dessus sans redistribuer les sources.
Enfin, on a une base qui est quand même à peu près propre, quoi. Enfin, en disant à peu près transparente.
Oui, mais il faut noter que donc t'as beau avoir le code source de Google qui est disponible et téléchargeable et tu peux le lire, etc., tu peux le compiler, etc., c'est pas forcément ce que t'as sur ton téléphone. Il peut être modifié par le constructeur sans que tu puisses avoir accès aux sources.
D'accord.
Ouais, tu peux pas récupérer les sources de ce qui sont sur ton téléphone, en fait.
Si le constructeur les met gracieusement à disposition, oui. Mais dans la plupart des cas, non.
Et même dans ce cas-là, t'as pas de moyen de vérifier que c'est ce qui est vraiment sur ton téléphone physique, quoi. Il peut te dire sur son site, tiens, voilà les sources. Mais en fait, ce qui est dans ton téléphone, c'est pas forcément ça.
Voilà. À part, il y a quelques constructeurs qui sont sympas, hein, qui te permettent d'installer donc le logiciel de Google. Donc tu peux le télécharger, le compiler. Et le mettre, et donc là, tu es sûr que tu as le bon logiciel puisque c'est toi qui l'as mis dessus.
Quand tu installes toi-même le logiciel dans ton téléphone.
Voilà.
Okay. Et c'est ça, pour moi, c'est ça la vraie force de l'open source. Le logiciel libre, c'est quand on arrive à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir ton téléphone, dire moi, je vais installer tel logiciel dessus, installer telle extension, etc., quoi.
Et je sais ce que je suis en train d'installer et je peux, bon, si j'ai les compétences, lire, modifier, redistribuer, faire tout un tas de choses.
Et quand tu dis si j'ai les compétences, à la rigueur, tu peux ne pas avoir les compétences, mais les déléguer à quelqu'un, quoi. Parce que dans le logiciel libre, effectivement, on dit les sources sont accessibles, tout le monde peut les lire et avoir confiance. En réalité, c'est pas vrai. Ça va forcément être des professionnels qui doivent les lire pour avoir un certain degré de confiance. Mais après, la question, c'est dans qui vous placez votre confiance, quoi. Est-ce que vous la placez dans des professionnels qui sont sans intérêt aucun, qui sont des bénévoles, ou est-ce que vous allez la placer dans des professionnels qui sont dans une certaine entreprise qui vous vend un produit, quoi. Donc c'est une question de délégation de la confiance.
Tout à fait. Oui.
Donc on a vu un peu le problème des licences, etc. On a parlé du modèle économique et de ces choses-là. Maintenant, le tout, vous allez me dire, ouais, le logiciel open source, je sais ce que c'est Linux, c'est OpenOffice, c'est VLC, et puis basta, etc. Bon, c'est pas tout à fait ça. En fait, là, j'ai entre les mains un livre blanc qui a été écrit par une société. Bon, je donnerai le nom de la société après parce que ce sont des gens qui font du bon travail de vulgarisation. Ils font des guides, des livres blancs sur justement les différentes solutions open source. Ils présentent toujours 3 ou 4 solutions open source avec leurs avantages, leurs inconvénients les unes par rapport aux autres. Bon, ils ont sorti un guide de l'open source sur la table des matières. J'ai environ, on va dire, il y a facilement 150 solutions différentes en open source. Alors, ce sont des solutions qui vont de ce qu'on appelle l'infrastructure, c'est-à-dire la prise de contrôle la prise de contrôle d'ordinateur à distance. Hein, c'est-à-dire que vous avez un copain qui est informaticien, vous avez un problème avec l'ordinateur, bah, il va prendre le contrôle de votre ordinateur, mais pas avec des logiciels où vous ne savez pas trop par où ça passe, etc. Avec des logiciels open source qui ont été vérifiés par des gens, etc. Vous avez de la gestion de parc et d'inventaire. Vous avez toutes les choses qui font que votre ordinateur va être sécurisé. Qu'est-ce qui va vous permettre de vous connecter de chez vous sur le travail sans que votre connexion de travail soit piratée. Qu'est-ce qui protège votre ordinateur, etc. Vous avez des logiciels de téléphonie. Il faut savoir que dans les centraux de téléphonie, ce qu'on appelle la voix sur IP, la VoIP, actuellement, parmi les logiciels de centraux téléphoniques, c'est en gros, je simplifie outrageusement, mais au lieu de téléphoner en passant par les lignes de téléphone classiques, en envoyant du signal voix, on utilise les connexions Internet. En gros, on fait du Skype, mais toute la communication téléphonique de l'entreprise passe par Skype. Donc, on a un connecteur d'entrée avec 10 lignes de téléphone, et puis dans l'entreprise, ça passe par le réseau informatique. Je simplifie, mais en gros, c'est ça. Et il faut savoir que le logiciel de gestion de centrale le plus répandu, pratiquement, c'est un logiciel open source qui s'appelle Asterix.
Même l'Internet, globalement, s'est construit sur du logiciel libre, c'est-à-dire que plus de la moitié des serveurs qui vous donnent les pages
On en est à 90% actuellement.
Ouais. Ah non, mais tu vois, je dis plus de moitié parce que je connais pas le chiffre exact, je suis large, mais l'Internet se fonctionne avec du logiciel libre.
Voilà, j'étais pas encore arrivé à là dans la liste, mais il y a effectivement tout ça. Il y a tout ce qui est les serveurs. Vous avez tous les annuaires d'entreprise, les bases de données, tous les outils de test logiciel, etc. Tous ces produits-là, des moteurs de recherche. Alors après, on arrive justement dans les serveurs HTTP. Le serveur HTTP, là, quand vous tapez HTTP 2. Quelque chose, ça va sur un ordinateur qu'on appelle un serveur HTTP. Ben là, c'est 90% qui est en open source. Donc là, on a vu l'infrastructure, on a fait un petit tour du côté ce qu'on appelle le développement, les couches intermédiaires. Maintenant, les applications, ben, vous avez du CRM. Le CRM, c'est le Customer Relationship Management. Vous êtes une entreprise, vous voulez gérer votre base de données, vous voulez gérer vos clients, donc savoir que le commercial est allé les voir, qu'il est revenu les voir, etc. Faire des analyses là-dessus. C'est ce qu'on appelle un logiciel de CRM. Alors, soit vous prenez un produit dont le nom anglais veut dire force de vente, et qui coûte cher et qui est propriétaire, soit vous pouvez aussi prendre un logiciel open source. Vous avez tout ce qui est analyse de données, extraction de données, être capable de faire des analyses. Enfin, pratiquement tout, blog, wiki, forum, réseaux sociaux d'entreprise, à côté de Facebook, il y a un truc open source qui s'appelle EGG, E2G, qui est aussi libre. En gros, dans tous les domaines de l'utilisation informatique, on trouve de l'open source.
En France, par exemple, la Gendarmerie nationale, non pas que ce soit une référence sur cette radio, mais ils utilisent intégralement du logiciel libre. Au début des années 2000, ils sont passés complètement sur du libre pour réduire les coûts. Dans l'éducation nationale aussi, ils ont beaucoup de logiciels pédagogiques qui sont sous logiciel libre.
Mais malheureusement, ce n'est plus une priorité. Il y avait eu un projet de loi, il me semble, ou quelque chose comme ça, pour que le logiciel libre devienne une priorité dans l'éducation, et ce n'est plus le cas maintenant.
C'est plus une priorité, oui. Par contre, je confirme pour la Gendarmerie nationale, parce qu'à l'époque, je travaillais, par l'entremise de ma société, j'ai travaillé avec la gendarmerie, et c'était à l'époque la grande angoisse des gendarmes. Ouais, moi je sais me servir de Word, comment je vais faire avec les nouveaux produits? Et là maintenant, je vous garantis que ce serait très difficile de leur faire marche arrière. Donc on a affaire à des produits, en gros, dans le logiciel open source, on va trouver des produits d'excellente qualité. Ils sont souvent même d'ailleurs de meilleures factures, enfin ce qu'on appelle facture, c'est-à-dire que la qualité, le temps de réponse en cas de découverte de problème est nettement meilleur que dans le propriétaire.
Et ça c'est dû vraiment à la philosophie du logiciel libre, c'est-à-dire voilà. Comme ce que moi, développeur, programmeur, je vais produire et mis aux yeux de tout le monde et public, il faut forcément que si j'attache une quelconque réputation, il faut que je fasse du code de qualité. Quoi, parce que...
Et c'est lié aussi justement, alors là par contre, c'est le mélange du libre et de l'open source, donc la vitesse de réaction au cas d'incident ou de problème, c'est lié justement au fait qu'on travaille en transversal avec des petites équipes. Au lieu de sortir une version tous les 6 mois ou une version par an, on sort une version quand il y a besoin de sortir une version parce qu'on a des améliorations ou parce qu'on a corrigé une faille de sécurité. Donc le système est beaucoup plus réactif que parce que justement on est dans le domaine, on est dans le monde du bazar par rapport au monde de la cathédrale.
D'accord.
Donc on a fait un petit tour. Alors je vais, j'ai parlé d'une société, j'en viens. Je vais quand même vous donner 3 références de lecture intéressantes. Parce que bon, on parle, mais il y a quand même des gens qui seraient peut-être intéressés pour retrouver les choses dont on a parlé. Alors, il y a le premier, c'est quand même quelque chose que, disons, si on est un peu dans le monde de l'informatique, ou qu'on connaît un petit peu les méthodes de travail en informatique, il faut l'avoir lu une fois dans sa vie, c'est le fameux « La cathédrale et le bazar ». Donc, la cathédrale et le bazar avec un Z. Alors, le texte original est produit en anglais, mais ça a été traduit, lu, vérifié dans pas mal de langues. Et c'est écrit par un dénommé Éric Raymond. Donc, Éric comme le prénom et Raymond comme le prénom. Donc, ça, c'est un texte mythique, La cathédrale et le bazar. Après, il y a Richard Stallman. Alors, Richard Stallman, c'est un gars qui lui est orienté logiciel libre, et c'est lui qui avait justement sorti la fameuse phrase « Pensez à free speech, not free beer ». Donc pensez à liberté de penser, pas à liberté d'avoir la bière gratuite. Et un des premiers textes qu'il a écrit, c'est « Pourquoi l'open source passe à côté du problème que soulève le logiciel libre ». Mais si vous voulez vraiment comprendre ce que c'est que le logiciel libre, donc vous cherchez Richard Stallman. Alors Richard, alors je ne prononce pas l'anglais, hein, Richard comme le prénom, et Stallman, donc c'est S-T-A-2-L-M-A-N. Donc lui, c'est le pape, entre guillemets, hein, si je peux employer cette expression-là sur une radio libertaire. C'est le penseur original du logiciel libre. Après, il y a un autre article qui peut être intéressant. C'est un truc qui s'appelle Paritech Review. Donc, c'est sur. Vous cherchez Paritech, P-A-R-I-S-T-E-C-H, R-E-V-I-E-W. Et il y a un article qui date de 2011. Qui est intitulé Open Source, sortir des idées reçues. Il est pas mal parce qu'il casse les pattes à un certain nombre de petits canards, il explique un peu les choses, c'est bien fait, ça vaut le coup d'être lu, ça fait quoi? Ça fait 6 pages, et avec ça, on se fait une petite idée de ce que c'est ce monde-là. Et sur Wikipédia, il y a des choses aussi très intéressantes sur l'historique de l'open source, des choses comme ça. Et donc, on va reclasser nos sources, parce que là, il y en a un peu partout sur la table. Et en attendant, Colin va nous passer un petit intermède musical.
Dans la banlieue de la Seine-Saint-Denis se tient la plus grande foire du monde. Et au fond de cette foire, un petit homme debout sur un tabouret qui crie à tout bout de champ: messieurs, dames, approchez, venez vous horrifier, car derrière ce rideau stable se cache l'âme du diable, la femme à deux têtes et l'homme à quatre bras vous feront tourner la tête et mourir d'effroi, car pour seulement 2 sous vous en prendrez un coup. Salut, je m'appelle Robert, je suis né avec 4 bras. Je suis né en enfer, on m'appelle Satana. J'ai une force immense et je pourrais tous vous tuer. Public, je veux que tu lances la danse des damnés. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe.
suis pas une bête, mais tous vos faits et gestes pourraient bien m'exciter. Mes relations incestes m'ont permis de m'accoupler. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, ah 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 ah, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, ah 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 ah, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, ah 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 ah. Mais le forain n'avait pas prévu, les monstres se sont libérés, sa personne n'aurait jamais cru. Alors ses sœurs se sont vengés, la femme à deux têtes s'accouplait avec les minons, pendant que Satan à lui répandait le chaos. Le forain a été tué comme toutes les personnes violées. Une fois la musique terminée, seuls les cadavres régnaient. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, ah 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 ah, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. C'est la main, aujourd'hui je peux vous conter l'histoire. Les mutants de Transylvanie, ce n'est pas par hasard. Moi je suis né avec une tête et seulement des bras. Mais ces monstres sont mes ancêtres publics, croyez-moi. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, ah ah, aïe aïe aïe, 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 aïe aïe aïe. Me lo decía mi papá, me lo dijeron muchas veces y lo olvidaba muchas más.
Mon grand-père mille fois me l'a dit, mon père me l'a répété aussi. Il me l'entendait tant et si bien rabâché qu'à chaque fois moi j'oubliais. Travaille mon enfant,
que si le dinero vivirá.
La vie sans argent, ça vaut pas le déplacement.
Junta el esfuerzo y el ahorro.
Gagne mes gardes, tes sous, fais ton trou, et alors tu verras.
Abre tes paso, ya verás.
La vie daignera te donner quelques moments de joie.
Como la vida te depara buenos momentos, te alzará.
Enfonce bien les petits,
los pobres,
les mesquins,
les mezquinos,
tous les cons. Qui se contentent de ce qu'ils ont,
que no han sabido descollar.
Mon grand-père mille fois me l'a dit, mon père me l'a répété aussi. Ils me l'ont tenté si bien rabâché qu'à chaque fois moi j'oubliais. Mon grand-père mille fois me l'a dit, mon père me l'a répété aussi. Ils me l'ont tenté si bien rabâché qu'à chaque fois moi j'oubliais. C'est chacun pour sa peau, et voilà toute l'histoire. Sortez cro, joue solo, sinon tu ne seras qu'un tocard. Un tocard. Vas-y fiston, mets le paxon. Toute la terre, le soleil et la mer appartiennent à ceux qui s'assoient sur leurs frères. Mon grand-père mille fois me l'a dit, mon père me l'a répété aussi. Ils me l'ont tenté si bien rabâché qu'à la fin j'ai tout oublié. Mon grand-père mille fois me l'a dit, mon père me l'a répété aussi. Ils me l'ont tenté si bien rabâché qu'à la fin j'ai tout oublié.
Il a olvidado siempre más.
Vous êtes sur Radio Libertaire et donc vous venez d'écouter, d'abord c'était Bob's Not Dead, c'était Les Monstres de Foire suivi de La Tordue, donc balade en vous.
Donc comme tous les lundis soirs, l'émission du syndicat de l'industrie informatique affiliée à la CNT Solidarité Ouvrière, Et pendant la musique, il y a notre amie Jeanne qui nous a appelé, qui posait une question. Alors Jeanne, elle s'est présentée comme quelqu'un qui n'est pas de la première jeunesse et qui n'est pas compétent franchement en informatique. Alors c'est pas grave, hein, c'est... Comme je... Moi j'ai souvent des comparaisons entre l'informatique et l'automobile. Il y a beaucoup de gens qui montent dans des voitures, qui font plein de kilomètres avec, mais ils n'ont strictement aucune idée comment ça marche. Mais ils savent s'en servir. Alors l'informatique, c'est pareil. On a des gens qui utilisent des ordinateurs, et puis à côté de ça, il y a des gens qui s'occupent de les entretenir, de les réparer, les créer. Enfin, il y a un tas de métiers. Donc c'est pareil, faut pas... c'est pas parce qu'on utilise un ordinateur qu'il faut avoir peur et puis qu'on fait de l'informatique. Et la question de Jeanne, elle était très simple. Elle a dit, ben voilà, dans le temps... on avait des copains, on pouvait construire une maison, on faisait venir les copains, il y en avait un qui savait faire ci, qui savait faire ça, on pouvait réparer un tas de trucs. Comment on peut faire ? Est-ce qu'on peut faire la même chose en informatique ? Alors effectivement, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est pareil, je vais reprendre un autre exemple. Quand il y a une fuite au lavabo, généralement, si on peut faire venir un copain plombier, on fait venir un copain plombier. Donc pour les problèmes d'informatique aussi c'est pareil, souvent on va demander à un copain informaticien de s'en occuper. Donc là je crois que Clément il a une petite expérience sur le sujet.
Bah, je pense que comme la plupart des membres du syndicat, je fais la maintenance des PC qui sont dans ma famille, dans ma belle famille, et qui sont majoritairement sous système d'exploitation Windows. Et c'est ce que je disais à Bernard en aparté, c'est que ok, je fais la maintenance, c'est-à-dire que je nettoie les virus qui sont installés, les plugins Firefox qui t'installent des barres en bonus, etc., etc. Mais ça serait beaucoup plus facile si les gens étaient sous des logiciels libres, parce que donc là, en comparaison de Windows, l'équivalent, l'alternative en logiciel libre, ce serait sous Linux. Et ce serait beaucoup plus simple pour moi parce que y aurait tous les outils d'administration à distance qui feraient que j'aurais beaucoup plus de facilité. Bon, déjà, il n'y aurait pas de virus. Et en plus, toutes les choses... je pourrais vraiment réparer les ordinateurs à distance. Tandis que là, ce n'est pas possible. Il faut que je m'installe sur chaque poste et que je regarde qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et ensuite, les problèmes sont spécifiques à chaque Windows et compagnie. Tandis que bon, sous Linux, c'est un environnement qui est... qui a une ergonomie qui n'avait pas trop évolué depuis des années parce que c'est la bonne. Et donc les moyens d'administration sont meilleurs. Donc si vous avez un ami informaticien et que vous êtes sous Linux, vous lui ferez plaisir parce que pour lui, ce sera plus facile. Je pense dans le cas de Jeanne, notre auditrice, qui est sûrement sous Windows, effectivement, elle, déjà pour elle, c'est difficile de corriger quoi que ce soit par elle-même. Mais c'est dû au système d'exploitation qui est pas fait pour être facilement maintenable par quelqu'un, quoi. C'est clairement fait pour que vous ayez vous appeliez du support, vous fassiez appel à quelqu'un qui vous vend du service, quoi, à la place d'appeler un pote.
Alors, mais même quand on est sous Windows, parce que moi je suis la honte du syndicat, je suis sous Windows, mais ouh, moi c'est parce que je suis à moitié travailleur indépendant et je suis obligé de travailler avec les outils que mes clients ils ont. Donc mes clients ils ont Windows et je suis sous Windows. Par contre, je suis pas sous Microsoft Office, je suis pas sous Outlook, je suis pas sous Internet Explorer, j'ai tout en logiciel libre et ça a d'énormes avantages. Par exemple, ma messagerie, elle plante pratiquement jamais. Et ma messagerie, j'ai trouvé un tas de petits, ce qu'on appelle des plugins sympathiques qui me font des fonctionnalités que je ne peux pas avoir dans des logiciels fermés. Donc un des avantages du logiciel libre, c'est que ce sont ce qu'on appelle des architectures ouvertes. Hein. Je simplifie, c'est en gros, on a la maison et puis l'architecte, il a donné le plan avec toutes les arrivées d'électricité, de téléphone, d'eau, etc. On sait où est-ce qu'on peut les sorties d'eau usée, etc. On sait qu'on peut se brancher à tel endroit et à tel endroit pour faire telle chose. Et donc, dans le logiciel libre, il y a ce qu'on appelle les plugins ou les extensions. Hein. Donc, c'est comme le nom l'indique en anglais, plugin, c'est vraiment quelque chose, on arrive, on le branche. Parce qu'il y a les entrées et les sorties, il y a les points de connexion prévus dans le logiciel. Et on trouve comme ça un tas de plugins qui ont été écrits par des gens qui avaient un besoin bien précis, ils ont résolu le besoin et puis après ils mettent ça à disposition de tout le monde et puis on trouve des trucs super sympas qui permettent de résoudre des cas particuliers. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant dans le monde du logiciel libre, cette possibilité de faire évoluer les logiciels. Alors là, on ne sait pas qui c'est qui a développé, mais il a fait le programme et puis il l'a mis à disposition de tout le monde.
Et il faut lui faire confiance pour l'installer, mais...
Voilà, mais
tu peux déléguer ta confiance à quelqu'un. Si beaucoup d'utilisateurs ont utilisé ce plugin, bon, On peut supposer qu'à priori, il est
généralement,
bon.
Généralement, ouais, c'est du correct. Et c'est, je vous garantis, moi, quand je vois j'ai des clients qui payent 600 euros, hein, un Microsoft Office, ça coûte, je crois, dans les 300 euros pour une PME, mais s'il veut avoir la messagerie Outlook, il faut qu'il paye 600 euros pratiquement. C'est la grosse différence entre les deux versions. Mais quand je lui dis que moi, ça me coûte 0 francs, 0 centimes, et que ça marche aussi bien, voire mieux, et je lui montre comment je l'utilise, bah, des fois, il se pose des questions. Donc, avant d'aller s'enfermer dans le logiciel libre, ça vaut le coup de discuter. On a toujours un copain qui...
S'enfermer dans le logiciel propriétaire, tu veux dire.
Oui, excuse-moi. Ça y est. Ça, c'est la sélénité précoce. Avant de s'enfermer dans le logiciel propriétaire, ça vaut le coup de faire le tour des forums de Google ou de demander à des copains. Et on va certainement trouver des choses très sympathiques.
Ouais, donc par exemple, pour les navigateurs Internet, tu peux utiliser Firefox. Pour les lecteurs de mails, tu peux utiliser, je pense, Thunderbird ou Evolution.
Voilà,
pour lire la vidéo, on a déjà parlé de VLC.
Il y a VLC. VLC, c'est gratuit. Ça lit à peu près tout ce qu'on veut.
C'est vraiment impressionnant.
Voilà, il y a des rippers, je ne devrais pas le dire, mais il y a des rippers de DVD open source aussi. Enfin, il y a un tas de choses...
Il y a des suites bureautiques aussi, LibreOffice par exemple.
LibreOffice est d'un excellent niveau et pratiquement à très peu de choses près, LibreOffice sait parfaitement lire les... De temps en temps, il y a un petit bug, mais c'est vraiment parce que Microsoft fait tout pour empêcher les gens de faire. Mais il y a des entreprises, on parlait tout à l'heure de la gendarmerie, mais il y a des entreprises qui ont dit... Terminé, fini quoi. Alors ils gardent un office dans un coin pour les cas particuliers, pour faire des conversions de fichiers, mais...
Ouais. C'est vrai que dans mon entreprise, par exemple, on est entièrement sous Linux et sous Mac. Donc après, on produit du logiciel qui est propriétaire, mais on le produit intégralement avec des outils qui sont du logiciel libre.
Et au final, en fait... Les particuliers peuvent très bien se contenter d'un Firefox. De toute façon, peuvent se contenter d'un Firefox, d'un LibreOffice, etc., sans avoir besoin de payer une licence Microsoft Office, alors que LibreOffice fait très bien l'affaire et c'est gratuit et c'est libre.
C'est pareil, dans le dessin, il y a des logiciels de dessin qui sont d'un niveau, du niveau de certains produits avec 3 zéros après les chiffres sur la facture, quoi. Donc il y a des outils, etc. Donc je dirais, quand on se pose la question, voilà, j'ai un besoin en informatique, qu'est-ce que je peux faire? Avant d'aller chez le vendeur de cacahuètes du coin, essayer de se renseigner, discuter avec des copains, aller sur des forums et puis trouver des solutions. Et en plus, plus on rentre dans ce système-là, plus on a de chances de rencontrer des gens qui sont prêts à donner un coup de main et à dépanner. Écoute, Jeanne, j'espère qu'on a répondu à ta question. Et on va passer sur un autre sujet dont on voulait vous parler, c'est l'encyclopédie libre.
Oui, donc Bernard, tu avais donné une petite référence sur Wikipédia tout à l'heure. Et donc Wikipédia, c'est un logiciel libre. Donc c'est une encyclopédie libre. Donc je pense que beaucoup de monde a déjà été sur cette encyclopédie. On y trouve beaucoup de choses, des trucs très très intéressants, des trucs moins intéressants, enfin à compléter. Parce qu'en fait, Wikipédia, c'est une encyclopédie que tout le monde peut modifier. Donc si, admettons qu'un article sur un tel sujet ne n'est pas bon, c'est-à-dire que il y a des fautes, etc., on peut cliquer sur modifier, la modifier, etc. Alors bien sûr, on peut se demander, les gens qui vont se pointer, ils peuvent modifier tout et n'importe quoi, mettre des fausses informations. Tout à fait, mais c'est quand même vérifié derrière. Il y a des gens qui quand même un minimum vérifient les données et donc peuvent les remettre la version précédente en fait. Donc ça veut dire que pendant un court moment, il y a eu quand même une version un peu bizarre de l'article sur un tel sujet. Et aussi donc... Quand je disais que Wikipédia, c'est un logiciel libre, le site internet, le logiciel, est modifiable. C'est-à-dire qu'on peut modifier les codes sources et créer son propre Wikipédia et sur un sujet qui n'a complètement rien à voir ou pour ses besoins personnels. Voilà.
Et en plus, le contenu, donc le contenu des articles est lui-même sous une licence libre, qui est la Creative Commons, si mes souvenirs sont bons. Donc, et là, le site, en fait... contraint à respecter les règles dont on a parlé tout à l'heure, qui sont que quand vous contribuez à un logiciel libre, donc là c'est du contenu libre, vous devez garder la liste des modifications et la liste des anciens auteurs de manière à pouvoir savoir qui a fait quoi dans chaque contenu. Et sur la Wikipédia, c'est ce qui se passe. Si vous allez dans l'historique, vous allez voir la liste des contributeurs avec pour chaque contribution la nouveauté, la suppression qui a été faite par cet utilisateur. Donc là vraiment, on a un dispositif technique qui implémente le logiciel libre, quoi, qui contraint à garder cet historique.
Et donc dans la même idée, si donc l'article est libre, donc est sous une licence libre, ça veut dire que je peux le prendre et le moi-même le modifier, puis le mettre dans l'imprimer, le diffuser. Je peux par exemple vendre des livres avec une sélection d'articles de Wikipédia, tout à fait. Je peux le faire, mais il faut que je mette la petite un petit encadré qui dit que ça vient de Wikipédia. Et qui sont les auteurs de la page, mais je peux tout à fait le faire.
Voilà, si des gens l'achètent, c'est cool pour toi, mais personne ne t'en empêchera, quoi.
Voilà, c'est autorisé par la licence. Mais cela dit, donc, vu qu'il y a le petit encadré, les gens peuvent très bien aller directement sur Wikipédia et lire directement les articles. Voilà, c'est comme ils veulent.
Ouais. Et la Wikipédia, je trouve que c'est vraiment un bon exemple de la qualité et de la quantité par les licences de logiciels libres, quoi, parce que je pense que globalement, c'est l'exemple que tu donnais, Bernard, si toutes les maisons étaient fournies avec le plan de l'électricité, de l'eau, machin bidule, ça serait beaucoup plus facile pour n'importe qui de rajouter une extension à sa maison ou de construire quelque chose à côté. Si par exemple votre télé ou tous vos appareils, tout le monde avait les plans et les spécifications des différents logiciels que vous utilisez, ce serait beaucoup plus facile pour un particulier ou une entreprise, comme pour faire du business, de fournir un service. Je pense en particulier aux box que vous avez chez vous. Et les box, en fait, elles offrent certains services qui sont...
Tu veux parler des box du raccordement Internet?
Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Qui fournissent du contenu pour la télé et pour l'Internet. Et ces box, je pense à l'exemple de chez Orange, ils fournissent un logiciel chez Orange qui permet de lire du contenu sur votre box qui est sur votre ordinateur ou n'importe quel dispositif qui est connecté à votre box. Et ce que Orange se garde bien de dire, c'est que s'ils peuvent faire ça, c'est parce qu'en fait, la box implémente un protocole qui est librement diffusé, donc sur lequel tout le monde peut se brancher et tout le monde peut y contribuer, qui s'appelle UPnP. Et ça, Orange fait ça parce que le protocole est public et donc ils ont pu, eux, en fait, ils font rien pour fournir cette facilité. Ils vous disent, branchez un logiciel ou un PC qui a le protocole UPnP à l'extrémité de votre box et votre box pourra lire le contenu. Et en fait, ça, c'est une innovation entre guillemets qui est très simple parce que le protocole est public, donc n'importe qui peut le faire. Et là, Orange vous met une belle boîte avec un logo Orange dessus sur ce logiciel pour vous faire croire que c'est eux qui le font, mais en fait, c'est juste que les appareils à l'extrémité de votre réseau le font. Et ça, je trouve que c'est un exemple, comment dire, d'innovation qui est très simple parce que voilà, ce protocole est public et c'est facile de s'y connecter, quoi. Bernard ou moi, on pourrait faire quelque chose avec ce protocole. Et si beaucoup d'appareils avaient ces protocoles publics, voilà, je pense que globalement, on aurait beaucoup plus de contrôle sur la technologie parce qu'on pourrait contribuer des nouveautés, on pourrait comprendre le fonctionnement.
Oui, il y a toute une partie, justement, on en revient à l'architecture. Donc la partie plus open source que la partie free, c'est une conception de la manière de travailler. Donc où les gens, c'est pas de la taylorisation, faut pas confondre, mais on découpe le produit à fournir en boîte, en petits morceaux. On travaille en concept de boîte noire et on le fait quand on le fait intelligemment, on fait en sorte que les morceaux puissent être réutilisés dans autre chose. Et donc on se retrouve avec tout un tas de je ne vais pas dire comme certains la caisse à outils, mais en gros c'est ça, on a une caisse à outils avec plein de fonctionnalités et le gars qui est intelligent, il se dit attends, si je prends ça, 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 ça et ça, j'ai l'idée du siècle, j'ai le produit du siècle. Et donc il y a le travail d'un tas de gens qui ont travaillé intelligemment, proprement, à faire du beau travail qui est empilé, qui est connecté et qui permet de faire c'est plus que la somme de ces parties, quoi. Et ça fait partie du concept du bazar de l'open source, c'est justement de faire des morceaux réutilisables et qui soient parfaitement testés.
Ouais, c'est la différence qu'il y avait entre Internet et le Minitel. C'est-à-dire que le Minitel, c'était un protocole fermé sur lequel on ne pouvait pas fournir de nouveaux services facilement. Tandis que l'Internet, lui, a été construit sur des protocoles qui étaient libres. C'est-à-dire que chacun pouvait savoir comment ça fonctionnait et de son côté faire un système ou un serveur, etc., qui répondait aux questions des autres sur le réseau. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'Internet a prospéré. C'est que c'était très facile d'y contribuer.
Et ça, c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure pour les plugins, c'est la même philosophie.
Voilà,
donc
ouais.
On a un réceptacle, un outil, le navigateur, etc., qui est prévu déjà avec des points d'entrée, et chacun amène sa petite boîte et ça bénéficie à tout le monde. Donc tout à l'heure, j'avais parlé de société. Alors là, je vais citer une société parce qu'elle fait un bon travail sur l'open source et surtout, elle a quelque chose qui peut intéresser les auditeurs, c'est qu'elle publie régulièrement des guides comparatifs de tout un tas de catégories de produits en open source. Et c'est une société qui est française, qui s'appelle Smile, S-M-I-L-E. Et si vous cherchez, si vous avez besoin professionnellement d'une solution ou même personnellement, vous voulez monter un site internet un peu plus sophistiqué que la moyenne, vous voulez ce qu'on appelle un CMS ou des choses comme ça, mais c'est surtout pour les professionnels, disons, la qualité des comparatifs. Il y a des comparatifs sur les... Actuellement, il doit y avoir une dizaine de comparatifs et de guides sur les différents produits open source dans différentes catégories. Et ils ont des guides qui sont intelligemment faits parce qu'il y en a quelques-uns qui donnent la liste des questions à se poser pour évaluer un produit. Donc ce sont des gens qui ont bien compris. Et puis surtout, je travaille pas avec eux, j'ai pas grand-chose à voir avec eux, ou pratiquement pas, j'ai jamais réussi à faire de business. Je les ai rencontrés plusieurs fois. Mais si vous avez des besoins professionnellement pour comparer des solutions open source, allez sur leur site, chercher les guides qu'ils ont, les livres blancs. Donc, on a fait un petit tour sur la question. Et donc, au niveau de vos ordinateurs personnels, utilisez, l'open source, c'est quelque chose à consommer sans modération.
Bah, en plus, de nos jours, c'est beaucoup plus facile qu'il y a une dizaine d'années. Je pense particulièrement si tu veux installer du Linux chez toi, donc pour pas avoir à payer la licence Windows, tu vas avoir des solutions clés en main qui sont d'une qualité impressionnante. Je pense par exemple au système d'exploitation qui s'appelle Ubuntu, qui est U-B-U-N-T-U. Voilà, c'est un système d'exploitation basé sur Linux qui va vous fournir exactement les mêmes services que sous Windows, qui va être en français, qui va être facile à installer, etc. Il y a une communauté francophone importante, donc si vous avez le moindre problème, vous pouvez aller chercher sur le net des solutions ou poser des questions sur des forums. Il va vraiment avoir, c'est quelque chose qui est diffusé largement. Donc vous aurez une qualité de réponse qui sera très bonne. Par exemple, chez nous, au boulot, on utilise Ubuntu. Moi, je l'utilise aussi à la maison et depuis des années. Quoi.
Alors, par exemple, pour Ubuntu, mais c'est vrai aussi pour les autres, vous pouvez télécharger ce qu'on appelle une image ISO sur Internet. Avec ça, vous allez graver un CD ou si vous êtes bon, vous pouvez même la faire une clé USB bootable. Et le gros avantage, c'est que ça vous permet de démarrer votre bonne vieille machine Windows, vous la démarrez sur le CD et vous avez un Linux qui tourne et ça vous permet de le tester, de le regarder, de voir si ça vous fait envie sans casser votre Windows. C'est vraiment du test grandeur nature, impeccable, ça marche très très bien. Oui, eh ben écoute, je crois qu'on n'a pas tout à fait fait le tour de la question, mais presque, donc on va refaire une petite pause musicale.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Libertaire et vous venez d'écouter donc l'escalope. C'était Faux Semblant. Donc on retourne l'émission.
Voilà, oui. Donc comme tous les premiers lundis du mois, l'émission du syndicat de l'industrie informatique, un syndicat affilié à la CNT Solidarité Ouvrière. Notre site internet syndicat-informatique.org. Donc ce soir, on a parlé de l'open source et puis ben on va quand même remettre une deuxième couche, on va revenir un peu sur ce qu'on a dit au début, open source, logiciel libre, et pourquoi ça nous intéresse, nous, en tant qu'anarcho-syndicalistes. Ben, l'open source, comme j'ai dit au début, c'est plus une méthode de travail informatique. Hein, donc il y a toute une philosophie. Bon, d'abord, c'est du logiciel qu'on peut lire, qu'on peut voir ce qu'on appelle les sources, c'est-à-dire ce qui fait tourner le programme. Mais surtout, au départ, c'est l'article d'Éric Raymond, La cathédrale et le bazar, c'est une manière de travailler différente. Donc une manière de travailler, on fait plus souvent des nouvelles versions, on teste, on a des délais de mise à disposition de nouvelles versions beaucoup plus rapprochés et on travaille moins d'une manière pyramidale. Le logiciel libre, lui, par contre, c'est le logiciel libre. Donc comme je disais, nos amis américains, ils font pas la différence entre free beer et free speech. Nous, on fait la différence entre entrée libre et liberté de parole. Donc le logiciel libre, il faut le prendre au sens, pas, c'est le critère principal n'est pas le fait qu'il soit gratuit, mais le fait principal qu'il est libre, on voit ce qu'il a, on voit comment il est fait, comme ils disent dans pas mal d'articles sur le sujet, le logiciel maintenant fait partie intégrante de notre vie, on ne peut plus rien faire sans logiciel, donc il ne faudrait pas que le logiciel nous contrôle, il faut qu'on puisse garder un contrôle sur le logiciel, vérifier ce qu'il y a dedans, etc. Et donc ça, c'est la notion de logiciel libre, donc une notion très libertaire du logiciel fait pour être mis à disposition des gens et fait pour leur intérêt, pas pour bestialement faire de la thune sur leur dos et ne faire que ça.
Et en tant qu'anarcho-syndicaliste, c'est ce qui nous intéresse, c'est parce que quand tu utilises du logiciel libre, comment dire, c'est toi qui as la responsabilité. Tu peux à la fois voir ce qu'il fait, et si toi tu as envie de le modifier, de l'utiliser à ta sauce, tu peux, quoi. Voilà. Donc t'as vraiment le contrôle sur les choses et t'es pas inféodé à une autorité extérieure ou quoi que ce soit.
Alors ça veut pas dire que c'est le bazar, hein. Anarchisme, liberté, système libertaire, c'est pas du tout le bazar, au contraire c'est très structuré, mais il n'y a pas cette notion d'autorité, d'autoritarisme.
Voilà, ça te permet d'être autonome, quoi.
Voilà. Et au passage, je rappelle qu'on est en train de parler en tant qu'anarchiste ou anarcho-syndicaliste de concepts qui viennent des États-Unis, ce qui est assez surprenant. Mais et Richard Stallman, donc le grand instigateur, la personne qui pratiquement a créé le concept de logiciel libre, fait vraiment la distinction entre open source et logiciel libre de manière assez marquée. Il insiste bien justement sur toutes ces notions de liberté, hein, comme quoi le logiciel qui est dans la machine à voter, on doit pouvoir, le citoyen doit pouvoir savoir qu'il a été contrôlé par quelqu'un qui est indépendant et qui a des idées de liberté.
L'exemple de la machine à voter, on n'en a pas parlé de la machine à voter, mais c'est vrai que c'est un super exemple parce que c'est vraiment un logiciel où tu as envie d'être sûr que ton vote va être compté de la manière sur le bouton sur lequel tu as appuyé, quoi.
Oui, et puis qu'on sache pas que c'est toi qui as appuyé sur le bouton.
C'est ça, il y a deux propriétés. Ouais. Tu veux que ce soit anonyme, mais tu veux quand même que ce soit correct.
Voilà.
Et d'ailleurs, je pense que c'est un des. Enfin, en France, parce qu'en France, ça s'est pas trop développé le vote électronique, et c'est un des freins. C'est qu'on a facilement confiance dans une boîte transparente dans laquelle on met une enveloppe. On a beaucoup moins confiance dans une grosse machine sur laquelle on appuie sur un bouton.
Il y a quelqu'un aux États-Unis qui a écrit pas mal d'articles justement sur les machines à voter et qui disait que c'est quand même assez surprenant parce que l'avantage qu'on veuille mettre des machines à voter partout, d'abord ça coûte beaucoup plus cher que des boîtes transparentes. Et puis une boîte en plastique transparente, on prend trois assesseurs de bureau de vote, ils sont capables de voir tout de suite si c'est trafiqué ou pas. Les trois assesseurs en question, on leur donne un ordinateur, on dit est-ce qu'il est trafiqué ou pas, ça va être beaucoup plus dur. Donc c'est vraiment, j'aime bien moi aussi en parler parce que justement c'est un exemple à la limite, nous on dit en tant que professionnels, si on doit mettre des machines à voter ou on veut qu'il y ait des informaticiens, ça veut dire qu'il faudra qu'il y ait des informaticiens qui aient des idées claires, si vous voyez ce que je veux dire, dans pratiquement dans chaque bureau de vote pour être capable de vérifier que la machine à les bons CD aux bons endroits.
C'est ça, et qu'elle n'a pas été trafiquée et compagnie. Voilà. Quoi. Ce qui est beaucoup plus compliqué en fait que d'utiliser une boîte en plastique transparente.
Voilà. Bon, c'est un exemple un peu extrême, mais voilà, c'est les gens qui se battent aux États-Unis pour le logiciel libre, qui travaillent là-dessus, ont les idées très claires sur ce genre d'application du logiciel libre.
Donc, je crois que la machine à voter, je pense que c'est mort. Hein. Je veux dire,
ça sera très dur à mettre en place en France. Hein.
Ouais.
Même le vote par Internet, ça sera très dur à mettre en place.
Ouais. Ouais, ouais.
Parce qu'on sait très bien à tous les niveaux auxquels on peut faire de la, je vais dire de la bidouille, hein, parce que je vais pas dire magouille, mais on sait où sont les trous de sécurité. C'est pas demain, la veille, qu'on va pouvoir mettre en place vraiment des systèmes de vote vraiment 100% sécurisé.
Ah ouais, et puis au final, la solution sans technologie, elle marche. Quoi. Donc,
sauf quand il y a des gars qui mettent des bulletins de vote dans leurs chaussettes, comme on a vu il n'y a pas longtemps.
Oui, mais tu peux t'en assurer facilement.
Voilà. Eh bien écoutez, donc on va vous laisser pour ce soir. On va vous retrouver le mois prochain, donc pour le premier lundi du mois à 19h30, le syndicat de l'industrie informatique, membre de la CNT Solidarité Ouvrière. À lundi prochain.
Donc je vais quand même rappeler, notre site internet c'est le www.syndicat-informatique.fr. L'émission sera réécoutable dans la semaine sur le site jusqu'à l'infini. Donc voilà, si vous voulez l'écouter, le réécouter. Et nos anciennes émissions y sont aussi. Voilà, c'est tout. Donc c'est parti.
Bah, pour ceux qui partent au mois de juillet, bonnes vacances.
Voilà, c'est ça.
Bonne soirée.
On va se quitter avec un peu de rock'n'roll. Duncan Jones, c'est Something Better.
Something better. When it don't feel right, never seem to stay too long. You're never satisfied.